Rosa Mirana. Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Vous écoutez la radio Inzam Bagateka Kawe. Nous, le 1er janvier 2023, mesdames, messieurs, c'est le moment de suivre la rétrospective de la semaine à la présentation Karine de Savé. L'actualité qui a marqué cette semaine en justice, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, ne reconnaît pas les compétences de la Cour de la communauté est-africaine qui a déclaré dans son jugement l'inconstitutionnalité du troisième mandat de feu président Nkurunziza. Dans une conférence publique de ce vendredi clôturant l'année 2022, le président Ndayishimiye a fait savoir qu'il n'est pas au courant de ce jugement puisqu'il n'a pas été signifié. Suivez.
La constitution burundaise est-elle semblable à la constitution tanzanienne? Est-elle semblable à la constitution ougandaise? Ou à celle du Sud-Soudan? Ou à celle du Kenya? Dis-moi, quelle est cette cour qui est capable d'analyser la constitution burundaise? Cela montre qu'il y a quelque chose qui se cache derrière cette décision. Il n'y a aucun pays capable d'analyser un article de la Constitution dans notre État. Je vous donne un exemple. Chez nous, dans le préambule de la Constitution, nous mettons en avant Dieu. Est-ce que tout le monde met en avant Dieu? Est-ce qu'il peut oser dire que puisque nous accordons la première place à Dieu, que c'est inconstitutionnel? Il peut vraiment le dire. La Cour de la communauté est-africaine ne regarde que les lois qui régissent la communauté. Elle ne regarde pas les lois qui régissent les pays. Dans le code pénal en Tanzanie, il y a un article qui autorise la chicotte. Est-ce que cela existe au Burundi? Il faut que vous sachiez comment se joue la politique. Il y a des gens qui sont rodés dans les lobbying, déjà capables de manipuler d'autres. Est-ce que les magistrats burundais ne sont pas manipulés? Vous ne cessez pas de le dire, alors que ce sont eux d'ailleurs qui ne le peuvent pas pour arrêter les Burundais. Moi, en tout cas, je ne suis pas de cela.
Maître Dieudonné Mashirayishidze, un des dépositaires de la plainte au sein de la Cour de la communauté est-africaine, estime que les arguments du président de la République sont échappatoires. Le jugement de la Cour a eu lieu à Bujumbura en 2021 et la copie a été remise à son porte-parole. Suivez Maître Mashirayishidze.
La chambre d'appel de la Cour est-africaine a rendu son verdict en date du 25 novembre 2021 à Bujumbura, en présence des conseillers du chef de l'État et, par ailleurs, le porte-parole du gouvernement a déjà reconnu avoir reçu cette décision lorsqu'il a commenté son contenu en disant que cet arrêt n'a plus d'objet, en ce sens que le président Nkurunziza serait mort et que le mandat est déjà expiré. Donc, il est étonnant que le porte-parole puisse avoir la décision et que le chef de l'État ne puisse pas avoir été notifié de cette même décision. Par ailleurs, on peut rappeler qu'au mois d'octobre de cette année, les organisations de la société civile, des coalitions des partis politiques, ont écrit des correspondances au chef de l'État, en lui demandant de mettre en application cet arrêt, qui est définitif et sans recours, et en annexe de la correspondance, l'arrêt était annexé. Donc, l'alibi selon lequel le chef de l'État n'a pas encore été notifié de cette décision, ne tient pas debout, tout simplement, peut-être veut-il esquiver le fond, mais vaut mieux prendre le taureau par les cornes plutôt que de se réfugier dans cette échappatoire, dans cette forme d'échappatoire.
Dieudonné Mashirayishidze s'étonne aussi d'entendre le président dire que la Cour est incompétente alors que les avocats du gouvernement ont répondu à toutes les audiences. Encore une fois, Dieudonné Mashirayishidze.
Par rapport maintenant à la compétence de la Cour, le chef de l'État n'est pas sans ignorer que le traité établissant la communauté est-africaine, en ses articles 5, 6 et 7, a mis sur pied des principes fondateurs auxquels tous les pays membres doivent adhérer, et notamment le respect de l'état de droit, le respect des règles juridiques internes et régionales. Et si Pendant plus de 6 ans, le gouvernement du Burundi a répondu aux audiences, a répondu aux écrits de la partie demanderesse. Le Burundi était persuadé que le tribunal était compétent. Toute cette procédure-là a été suivie. La compétence de la Cour a été remise en cause par le gouvernement et le gouvernement a été débouté. Et le gouvernement a accepté de continuer les plaidoiries quant au fond. Maintenant que le sort du troisième mandat est scellé et qu'il n'y a plus possibilité d'interjeter appel contre cet arrêt, le gouvernement du Burundi doit assumer le principe de la continuité de l'État en mettant en application cet arrêt, en réparant les torts qui ont été causés par les fauteurs de troubles en 2015, ceux qui ont violé la loi et qui ont été à l'origine de tous ces maux qu'a connu le Burundi en 2015.
Le défenseur des droits humains est enfin libre. Il est sorti de la prison mardi 27 décembre 2022 après plus de 2 ans d'emprisonnement arbitraire selon les défenseurs des droits humains. L'association Ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger se réjouit de la libération de l'avocat et défenseur des droits humains Tony Germain Nina. Cette organisation a demandé au gouvernement burundais d'indemniser cet avocat qui, pour elle, a été injustement emprisonné. Elle demande également la libération d'autres prisonniers en détention arbitraire, y compris la journaliste Floriane Ilangawiye. Même son de cloche du mouvement Inamahoro, des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, qui salue cette libération, Marie-Louise Barichako, présidente de ce mouvement, rappelle le cas de la journaliste Floriane Ilangabillé, détenue pour les mêmes accusations, et demande à la justice de la libérer aussi et sans condition. Justice toujours, un sous-officier de l'armée est gardé dans les cachots du bataillon police militaire de Bujumbura. Il est accusé d'avoir mal interprété le discours du président de la République du 1er juillet 2022, indiquant dans un groupe WhatsApp de ses promotionnels que le président n'a rien dit sur l'augmentation des salaires des militaires. 6 mois viennent de s'écouler sans qu'il soit présenté devant les magistrats de l'auditorat militaire pour qu'il s'exprime sur les accusations portées contre lui. Bonfils Nyongere pour plus de détails.
Ce sous-officier sous les verrous depuis bientôt 6 mois est renommé premier sergent Ernest Muziganya, sous-officier de carrière 56-56 de la matricule. Les informations que nous détenons de nos sources au sein de l'armée burundaise font savoir qu'il a été arrêté le 4 juillet 2022 au lendemain de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Premier sergent Ernest Muziganya travaillait au bataillon marine et affecté au port de Bujumbura où il a été arrêté par le lieutenant-colonel Emmanuel Bachamugwanho de renseignement militaire G2. Les mêmes sources indiquent qu'il était accusé par les renseignements militaires de n'avoir pas apprécié le discours du président de la République parce qu'il n'avait rien dit sur l'augmentation des salaires des militaires alors que pour ce sous-officier, la question était plus qu'intéressante chez les militaires. Ce message a été envoyé dans un groupe WhatsApp des sous-officiers avec qui ils ont fait ensemble la 45e session. Les renseignements militaires lui ont accusé d'avoir mal accueilli le discours du président de la République et d'ajouter qu'il agirait pour le compte des ennemis de la nation comme le renchérissent nos sources dans l'armée. À son arrivée dans les cachots de la police militaire, le lieutenant-colonel Emmanuel Bachamugwanho a ordonné qu'il soit violemment battu pour qu'il puisse accepter qu'il agit pour le compte des ennemis de la nation. Depuis son arrestation, ça fait bientôt 6 mois, selon toujours nos sources, il n'a jamais comparu devant les magistrats de l'auditorat militaire et pire encore, aucun proche de sa famille ne connaît depuis lors où il serait pour le moment. Des militaires qui alertent craignent pour sa sécurité avec risque de disparition forcée. Pourtant, la question qui lui tenait à cœur a été objet de débat dans le discours du président de la République le 23 décembre dernier lorsque les officiers des corps de défense et de sécurité souhaitaient lever du nouvel an au président de la République et à sa famille. C'était au cercle épique à Bujumbura. Il a précisé que la nouvelle politique salariale ne laissera pas de côté les forces de défense et de sécurité. J'ai analysé cette politique salariale. Je me dis que la politique doit être unique pour tous les citoyens. Car quelqu'un voit un militaire en train de manifester sa grogne au public, c'est comme un enfant qui voit son père en désespoir. De ce pouvoir, il perd trop moral. La rédaction de la radio Nzamba Gateka Kawe, nous n'avons n'avons pas pu joindre le lieutenant-colonel Emmanuel Bachamugwango qui a procédé à l'arrestation de son sous-officier ainsi que le lieutenant-colonel Floribert Biyere qui est porte-parole de l'armée pour éclairer l'opinion sur ce cas emblématique de garde à vue dans les cachots du bataillon police militaire.
Inzamba.
Poursuivant l'actualité qui a marqué cette semaine avec cette mise en garde du chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, contre les dignitaires qui ne mettent pas en application les décisions prises par le Conseil des ministres. Il se base sur la décision interdisant l'octroi et la construction sur des parcelles à Maravia, une décision qui n'a pas été respectée. Le président Ndayishimiye regrette que les hauts dignitaires soient les premiers acquéreurs de ces parcelles en violation de la loi. Il l'a dit à Kirundo ce vendredi dans une conférence publique clôturant l'année 2022. On l'écoute.
Quand le conseil des ministres prend une décision, elle devait être mise aussitôt en application. Il y a quelques jours, j'ai demandé de vous montrer toutes les décisions qui ont été prises par le conseil des ministres et l'état d'avancement de leur mise en application. Dans les prochains jours, je vais commencer à sanctionner tous ceux qui n'ont pas exécuté les décisions qui ont été prises par le conseil des ministres. Que le concerné soit averti. Si par malheur je dévance sur place, qu'il ne soit pas surpris de la suite qui lui sera réservée. Et puis, concernant les propriétés qui se trouvent au palais Naré, qu'on ne se rejette pas le tort. Si demain, il devenait qu'on annonce qu'on va construire un palais présidentiel à Buringa, ou en moins de 2 semaines, toutes les parcelles de Buringa seraient achetées. Le problème est que, lorsqu'on a annoncé qu'on allait construire un palais là-bas, les dignitaires se sont précipités pour y acheter des parcelles. Ceux que vous voyez là-bas ne sont pas les vrais propriétaires. Et quand vous demandez à ces mêmes dignitaires de prendre une décision, est-ce qu'ils seraient pressés de la prendre? Nous avons encore de vrais chrétiens ici. Il y a quelqu'un parmi eux qui est venu me dire qu'il fait partie de ces hauts dignitaires en me disant qu'il donne de l'argent à ces gens-là pour venir réclamer à leur place.
En actualité des réfugiés, le comité du camp de Mahama au Rwanda demande que des violations des droits humains cessent dans l'immédiat contre une partie de Burundi et que l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation des Burundais soit réhabilité. C'est en partie le message envoyé à la délégation du gouvernement après sa visite de sensibilisation au retour des réfugiés, visite effectuée dernièrement dans ce camp de Mahama. On fait le point avec Josephine Jones-Munzimana.
Dans ce message dit éclaircissement de la raison du non-retour au Burundi, les réfugiés se trouvant au camp de Mahama énumèrent une série d'exactions commises par les agents de l'État et qui sont à l'origine de leur exil, tout cela étant lié à la violation de l'accord d'Arusha, de la Constitution et d'autres textes réglementaires du pays. Ce comité représenté par Jean Bosco Kwibishatse donne des exemples de 80 personnes seulement enlevées et arrêtées en l'espace de 2 ans, des disparitions forcées, des emprisonnements arbitraires, des viols des femmes imputables aux Imbonerakure et autres agents de l'État comme les services de renseignement et ceux commis en toute impunité. Ce communiqué affirme à Kamahama, il existe des victimes de toutes ces violations comme les femmes violées, des personnes torturées, des veuves et orphelins de cette tuerie. Ce document rappelle également que le Rwanda n'est pas le seul pays à avoir accueilli des réfugiés burundais dans la sous-région, mais le camp de Mahama a toujours été pointé du doigt par le gouvernement burundais, parfois le considérant comme collaborateur des groupes rebelles et l'opposition politique en exil, ce qui est rejeté par ce comité des réfugiés de Mahama. Selon toujours ce comité, le troisième mandat de Pierre Nkurunziza a été jugé illégal par la Cour de la communauté est-africaine, mais l'exécution de ce jugement n'a jamais été prise au sérieux par l'État du Burundi. Ces réfugiés de Mahama réclament de ce fait un dialogue franc et inclusif de toutes les parties prenantes, à savoir le gouvernement, l'opposition politique et les groupes rebelles, pour trouver une solution pacifique favorable au retour de tous les réfugiés burundais basés dans presque tous les pays de la région des Grands Lacs.
C'est ici que prend fin cette rétrospective de la semaine. Merci pour votre écoute. Meilleurs vœux à toutes et à tous. Au revoir.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.